À la fin de la paracha, tout à la fin, il y a la naissance de quelqu'un. Qui est né à la fin de la paracha ce matin? Rivka. Rivka, elle est née, Mazal Tov. Discrètement, elle arrive au monde. À quel moment la Torah nous le raconte? À quel moment Avraham Avinu il a pris connaissance? Quand il est revenu de la Akeda. Revient de la Akeda, va yacharat verim aela, va yugad l'Avraham les morts, hine yalda milka gamhi, banim le Nachor achicha. Tu sais que ton frère Nachor a aussi eu des enfants. 12 enfants, très bien. Utz Bechoro, et Bouzachiv, Kmuela Viaram, Keset, Pildash, très bien. Vet Betuel, ou Betuel, Yalad et Rivka, Shmona Eile, Yalda, très bien. Achar Advarim Eile, après cet événement de la Akeda, Avraham Avinu recevant un télégramme, tu sais que tu as une petite nièce, Rivka est née. Pourquoi la Torah nous raconte Achar Advarim Ha'ele? Rashi déjà apporte. Avraham Avinu, il s'est fait des soucis. J'ai pas marié mon fils Yitzhak jusqu'à 37 ans. Et si jamais je l'aurais sacrifié maintenant comme Corban, j'aurais pas eu des petits-enfants. Il faut que je m'inquiète, il faut que je trouve un chidour. Alors il vient d'entendre, recevoir un SMS, tu sais. Il y a une petite fille qui est née, une petite nièce à toi. Comme ça, il a entendu pour nous dire, c'est bon, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, les choses vont se préparer. Mais la Torah nous dit donc, elle est née au moment de l'Akeda. Au moment de l'Akeda, Yitzhak, il avait 37 ans. Sa mère, Sarah, elle avait 90 ans quand il est né, Yitzhak. Elle est morte à 127 ans. Donc Yitzhak, il avait 37 ans. Le texte, il dit, Yitzhak, il se marie à 40 ans. Donc s'il se marie à 40 ans et son épouse est née quand il avait 37 ans, ça devrait faire chez les Juifs combien? Quel âge elle avait? Ça devrait, on peut faire 3 ans. Elle avait pile 3 ans. Mazal Tov, 3 ans. Très bien. Autrefois, les gens, ils étaient aptes à 3 ans, comme ça dit la Gemara. Sarah, elle était la fille de qui? De Haran. Haran était le petit frère d'Abraham. Entre Sarah et Yitzhak et Abraham, il avait, entre Abraham et Sarah, il y avait combien d'années de différence? 10 ans. Abraham, il avait 100 ans. Sarah, 90. Donc, 10 années de différence. Elle est sa nièce. Sarah, elle est la nièce d'Abraham. Et la différence est 10 ans. Et le père de Sarah, c'est Haran. Haran, c'était le petit frère d'Abraham. Donc, quel âge il avait, Haran, quand il a engendré sa fille? Moins que 10 ans. Normalement, les parents, ils sont plus âgés que les parents, que les enfants, oui? Donc, si sa fille, elle a 10 années, donc ça veut dire qu'Haran, il a eu sa fille à 7-8 ans. Mazal Tov, comme ça, c'était à l'époque. Pourquoi cette petite introduction? Parce que cette petite introduction va préparer quelque chose de merveilleuse. Quelque chose de merveilleuse. De quoi il s'agit? Un des merveilles du monde qu'on va lire la semaine prochaine par Chat Chaye Sarah. De quoi il s'agit dans cette histoire de Chaye Sarah? Le texte, il dit, « Va'avram zaken ba'ba yamim, Hashem berach et Avram bakol, Avram était vieux, il est rentré dans les jours. » Alors il a pris son serviteur Eliezer et il a dit, tu sais mon cher serviteur, il faut une épouse pour mon fils Yitzhak. Très bien. Eh bien, tu vas prendre des chameaux, tu vas partir à Haran, j'ai là-bas un petit neveu qui s'appelle Betuel et tu vas chercher là-bas une fille. Et jure-moi, tu ne me fais pas une entreloupe, oui. Tu ne vas pas prendre pour mon fils Yitzhak une fille de Bnot Knaan. Oui, bien sûr, maître, je fais tout ce que vous voulez. Non, non, tu me jures. Tu vas me le jurer au nom de Dieu que tu vas pas me faire un coup, oui? Oui, je vous le jure. Cette histoire, elle est incompréhensible. Avraham Avinu, il a un fils qui s'appelle Yitzhak. Oui. Il veut que son fils ne se marie pas avec une fille de Canaan. Oui. Ah, qu'est-ce qu'elle dit la logique? À qui il doit parler Avraham? À son serviteur Eliezer ou à son fils Yitzhak? Il doit parler à son fils Yitzhak. Viens Yitzhak, tu écoutes ce que je te dis. Quoi? Qu'est-ce que tu dis papa? Tu prends pas une fille de Canaan. Très bien, je fais ce que tu dis. Il dit pas un mot à Yitzhak. Il dit au serviteur, toi tu cherches une femme pour mon fils et je t'ordonne de chercher dans la famille de Haran et tu prends pas une fille de Canaan. Et pourquoi il ne parle pas à son fils Yitzhak? Qu'est-ce qui se passe ici dans cette histoire? Bon, première question. Qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Il prend les animaux, les 10 chameaux et il part à Haran. Nous, il arrive à Haran. Et il dit à Kadesh Baruch Hu, il faut que tu me donnes un coup de main ici dans cette histoire. Moi, il faut que je trouve cette fille. Mais je vais te dire à Kadesh Baruch Hu, je fais un pari avec toi, oui. Je pose mes conditions pour ton aide. Moi, je ne me casse pas la tête. Moi, la première fille qui sortira pour puiser de l'eau, je dirai, tu peux me donner un peu d'eau. Si elle me répond, je te donne l'eau pour toi et pour tes chameaux, eh bien, que ce sera cette fille-là, d'accord? D'accord? Je n'ai pas manqué qu'à Kadesh Baruch Hu, il a dit d'accord. Il a fait son pari tout seul. Il négocie avec un adversaire, avec un associé. Mais il parle pour lui et pour lui aussi. Et tu es d'accord, oui, oui, tu es d'accord. D'où tu sais que je suis d'accord? Moi, je décide comme ça. Il décide comme ça. Et si la première fille qui va sortir, elle boite, ou elle est aveugle, ou elle est sourde, ou elle est folle, Eliezer y fait un pari sans S à la fin. Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Tu me le fais comme ça, je veux que ça se passe comme ça. Bon, il termine cette fille-là, une fille vient. Tiens, une fille vient. Vous pouvez me donner un peu de l'eau? Mais bien sûr, monsieur. Pour vous et aussi pour vos chameaux. Tiens, ça tient la route. Mais c'est super bien. Elle donne de l'eau. Elle sert à tous les chameaux. Lui, il prend les bracelets. Il met les bracelets, Mazal Tov. Il demande même pas comment il s'appelle. Hein? Ils mettent les bracelets, ils mettent sur le nez. C'est bon, c'est bon. Après, il dit, et vous vous appelez comment, mademoiselle? Vous êtes la fille de qui? Moi, je suis la fille de Betuel, qui est le fils de Nahor. Et il se prosterne par terre. Ça a marché. Ça y est, j'ai réussi mon coup. Bon, Hachem, très bien. Je suis tombé bien. Vous voulez passer chez nous la nuit? Il n'y a pas de problème. Il y a quoi manger? Amenez vos chameaux et part à la maison. Une affaire d'or. C'est bon de faire comme ça des Shidorim. On n'a plus besoin de payer l'argent des Chatranot. Qu'est-ce que les gens, ils se cassent la tête? Mais c'est bien, c'est super. Tu arranges avec le bon Dieu tout seul. Et il te le fait. C'est comme ça qu'on fait. La Gemara nous dit, Eliezer Sha'al Shelo Kehogen. Eliezer, il a demandé, c'est pas correct comme ça on fait. Il aurait pu tomber sur une folle, il aurait pu tomber sur une femme qui va rendre la vie de Yitzhak amère. Il s'est mis en danger. Mais comment il doit faire un homme normal? Il veut faire un test sur cette fille, si elle est gentille. Là, je comprends. Il est bien, il a quand même une logique, ce Eliezer. Je veux savoir si elle fait du chesed. Très bien. Mais je dois aller chercher la fille qui est la petite nièce de mon maître. Il a dit, tu vas dans ma famille. Et il y en a 500 familles dans ce Haran. Il y en a une chance sur 500 que tu tombes sur la bonne famille. Qu'est-ce qui fait un homme logique? Un homme logique, les filles sortent, et il demande à une fille, dites-moi, vous connaissez Butuel? Oui, on connaît, c'est... Et il a une fille là dans cette... oui, oui, c'est là, c'est la troisième à gauche, là, vous voyez, c'est là avec le truc. Ah, très bien. Et après, quand elle vient puiser l'eau, il a dit, mademoiselle, vous pouvez me donner un peu de l'eau. Et là, il va voir si elle va dire oui pour vous et pour vos animaux. Très bien. Mais d'abord, on demande de qui il s'agit. Et jette un coup d'œil, si elle est normale, s'il ne manque pas un bras, s'il ne manque pas une oreille, si elle n'est pas aveugle. Faire un peu... de quoi il s'agit. Et après, on fait le test. Mais lui, il ne fait pas comme ça. Je ne me casse pas la tête, moi. Moi, le bon Dieu, tu m'arranges. La première fille, je ferme les yeux, la première fille, et ça doit marcher. Et ça marche. La Gemara nous dit, trois personnes dont la Tanakh ont demandé pas correctement. Et à Kadesh Baruch Hu, à deux des trois, il a répondu correct. Ah, Eliezer, ça marchait. Bah, bon Dieu, il avait pitié, ça marchait quand même. Mais comment ça se fait qu'Eliezer se comporte comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ce... La question, elle est encore un peu plus grande. Il est marqué dans la Torah, il y a une interdiction qui s'appelle l'otenachashu. Un homme n'a pas le droit de se faire des signes pour interpréter l'intention du ciel, des augures. L'otenachashu. Un homme, Motzei Shabbat, voilà, vous êtes venu ici Motzei Shabbat. Mazal Tov. Il y a une halakha, si quelqu'un il sort Motzei Shabbat, et quand il sort, il va à la choule ou à un cours, je ne sais pas quoi, il rencontre l'encaisseur des impôts. Ah, il dit, ah, c'est mauvais présage, cette semaine-là, c'est foutu. Cette semaine-là, je vais avoir des PV, des trucs. Il transgresse une avéra minatora. Un homme qui prend sa canne, il marche dans la rue et la canne tombe par terre. Il dit, la canne, c'est pour me soutenir. Si la canne, elle est tombée, mon soutien tombe. Ah, et les affaires vont pas marcher bien. Ou un homme, nafal piton, mi pif, un homme, il mange, il met le pain dans la bouche, et le pain, il est tombé. Le pain, ça représente la parnassa. Le pain, il est tombé. Je vais perdre la parnassa. Ouh là là, aujourd'hui, tu vas faire très attention cette semaine. Tous ces cas-là, ça, c'est un lav minatora. Un homme qui dit, bon, il rentre à la maison. « Ah, mon mari, tu es revenu, pourquoi tu ne vas pas au chiour ce soir ?»« Non, je ne peux pas aller. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai rencontré le commissaire là, que je paye toujours le PV. Je l'ai rencontré, c'est mauvais présage. Je rentre à la maison, j'ai peur de me faire. Eh bien, il a chayav malkout, on lui donne 39 coups. Parce que tu fais du nachas, tu fais des interprétations, des sur des signes. Qui t'a dit que c'est ça? Peut-être le pain il est tombé parce que tu as mal mâché. Ta canne est tombée parce que tu n'as pas bien tenu. Oui, mais pourquoi c'est tombé pile maintenant? Il faut une signification. Et moi, je l'explique. Mais qui t'a permis d'expliquer? Tu n'as rien expliqué. La canne est tombée, Mazal Tov, tu la ramasses. C'est un lave minatora. Ça fait partie d'une culture qui n'est pas la nôtre. C'est pas comme ça qu'on se comporte dans la vie. Si quelqu'un y fait le signe avant, si telle et telle chose arrive, j'interprète que ce sera comme ça. Moi, je vais sortir aujourd'hui. Si je vais rencontrer, si la septième dame dans le métro, elle aura une blouse avec des fleurs ici, donc ça veut dire qu'il faut que je dise à ma fille qu'elle se fiance avec son khatan. Et si la septième femme au métro elle n'aura pas de fleurs ici, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne faut pas que je marie ma fille. Le Rambam me dit, c'est l'otanachashu, c'est un lav minatora de se comporter comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait, Eliezer? Il fait exactement la même chose. Moi, je vais demander à la première fille, et si elle me répond, je vous donne à boire, et aussi à vos chameaux, eh bien, c'est ça et c'est là. Et ils mettent le bracelet. Parce que j'interprète, mais qui t'a permis de... Le bon Dieu, il est obligé de rentrer dans ton jeu. Tu fais un pari et rentre dans ton jeu. Mais le pshat, il est comme ça. Le texte commence, quelle est l'introduction de toute cette histoire? Va'avraham zaken ba bayamim. Avraham, il était vieux. Ba bayamim, il est rentré dans les jours. Comment on traduit les rentrer dans les jours? Ça veut dire quoi, il rentre dans les jours? Au moment où on compte les jours, combien de jours il reste encore sur terre? Cette expression, ba bayamim, n'existe 4 fois dans la Tanakh. Une fois Yeshua ben Nun, quand il avait 110 ans, le texte dit Yeshua ba bayamim. Il est venu dans les jours, tout de suite il a demandé aux gens, réunissez-moi tous les juifs, je dois faire un discours. Il a fait le dernier discours de sa vie et il est mort. Ba bayamim, ça veut dire son corps a subi d'un coup un coup de faiblesse, de vieillesse. Il reste quelques jours à vivre. Ça, c'est pshat. Ba bayamim, il arrive dans les derniers jours. David Amelech, il est marqué David Melech Zaken, ba bayamim, il a eu froid. On mettait 70 couvertures sur lui. Impossible. Ah, ça y est, je vais mourir. Ça y est, c'est le dernier. Et tout de suite après, il y avait une petite histoire. Et David, il est mort. Si Avraham Avinu, il y avait 2 fois Ba Bayamim. Une fois ce matin. Avraham Zaken et Bayim Ba Bayamim Khadil Yotzara. Mais ça, je ne vais pas expliquer qu'est-ce qui se passait ce moment-là. Mais Avraham Zaken Ba Bayamim, il avait 140 ans. Ba Bayamim. D'un coup, il est devenu faible. D'un coup, une faiblesse. Et il dit à Eliezer, vite, il faut tout de suite trouver la femme pour Yitzhak. Yitzhak n'était pas présent. Yitzhak va, bibo, ber, lachay, avariv, ou yoshev, beretzanegef. Depuis la Akeda jusqu'à ce moment-là, Yitzhak n'était pas chez son père, il était ailleurs, dans le pays du Sud. Et Yitzhak n'est pas à côté, Avraham, il tremble. Je sens, il me reste peut-être quelques jours à vivre. Il faut que je règle cette affaire tout de suite. Il prend Eliezer. Tu vas arranger cette affaire. Mais ici, il y a un problème. Qui c'est Rivka? La fille de qui? De Betuel. Et la sœur de Lavan. Notre cher grand-père Lavan. Comment il était notre cher grand-père Lavan? Monsieur Leblanc, Lavan, c'est Monsieur Leblanc. Il était blanc, blanc, blanche-neige. Ce Monsieur Leblanc, qui est notre grand-père, il avait un caractère un peu spécial. Quel était son caractère? D'abord, il aimait bien l'argent. Il aimait bien l'argent. Nous, le peuple juif, on descend de quelqu'un qui aime bien l'argent. On va voir à la fin pourquoi. Il a vu Vehi Kirot et Nezem Al-Yad. Il a dit à Choto, quand il a vu les bracelets en or sur les bras de sa sœur, il a couru comme une flèche. Ah, on peut trouver de l'argent, un Richard qui vient, faut que moi je suis le premier. Et il court comme un malade. Première chose. Deuxième chose, beaucoup d'années après, plus que 60 années après, plus que 80 années après, quand il était déjà vieux, Lavan, entre le mariage d'Yitzhak et la naissance d'Yaakov, 20 ans, et Yaakov, il a 63 ans, 77 ans, 99 ans après, Yaakov, il est venu chez Lavan, depuis il avait plus que 100 ans. Et Yaakov, il vient chez Lavan, je dois fuir devant mon frère Esav, je peux rester un peu chez toi, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que tu veux comme salaire pour le travail? Je peux épouser ta fille. Tu veux épouser ma fille. Aucun problème. Mais il faut payer un petit dot. Combien? 7 années de boulot. 7 années de boulot, elle est pas mal. Il est bien payé, cette fille. 7 années travaillées. Ah oui. Et Lavan était pauvre et il était rendu riche. Il arrive le jour du mariage. Il lui fait un joli entourloupe. Il donne Léa à la place de Rachel. Pourquoi tu m'as roulé? Maintenant, tu travailles encore 7 ans. Il est bien, ce Lavan. Il aime l'argent et du ruse et de la magouille. 14 années, il fallait travailler. Après, je veux travailler pour gagner quelque chose pour moi aussi. il n'y a pas de problème avec les moutons, machin. Va tachelef et maskourti aseret monim. 100 fois, il a changé les conditions de la paye. 100 fois, il avait un comptable, la vanne. Non, mais ça, c'est ça, c'est non, c'est pas ça, c'est ces conditions, truc. Et tu m'as pas payé les vacances, et ces moutons, il a. 100 fois, il a tourné au bourrique. Tout pour priver Yaakov de son argent. À la fin, Yaakov n'en pouvait plus, il a pris sa famille, ils sont partis. Et sur la route, Lavan, il a couru derrière, avec l'intention de massacrer toute la famille pour récupérer la richesse. Il voulait tuer ses propres filles, ses propres petits-enfants, son gendre Yaakov, je vais les tous massacrer, et je vais récupérer l'argent. Arami, Oved, Avi. Arami, Lavan à Arami, Oved, Avi, il voulait détruire mon père, toute la famille. Pourquoi? Pour récupérer l'argent. Un malade d'argent. Une folie. Maintenant, ce Lavan, c'est le frère de Rivka. Et Betuel, nous allons voir bientôt, n'est pas, fait pas partie des 36 tzadikim non plus. Maintenant, le texte il dit, va Avraham Zaken. Comment on traduit Zaken? Il est vieux. Mais Zaken veut dire aussi Chacham. Ein Zaken, Ela Chacham, intelligent. C'est quoi Chacham? Ezou Chacham? Haroet Anolad. Un Chacham, c'est quelqu'un qui voit le futur. Va Avraham Zaken, ça c'est le titre. Avraham, il était Chacham. C'est un homme qui voyait loin. Moi, je dois trouver Rivka pour mon fils, mais elle est dans une famille où il y a un frère, un malade mental d'argent. Et c'est quelqu'un qui est bon. Il a vu loin que Yaakov, on va lui tourner 14 ans au bourrique pour qu'il a reçoit la femme qui veut se marier. Quoi, cela vanne, il va lâcher sa sœur. Bon, il va prendre 10 chameaux plein de bonnes choses, des bonbons et des pastèques, c'est bien. Mais pour l'appétit de Lavan, ça c'est la petite monnaie. Comment je vais faire sortir cette Rivka de la main de Lavan? Ça, il faut se lever tôt. Impossible. Il faut que le bon Dieu intervienne. Il a dit à Eliezer, tu sais, tu vas partir, et comment tu vas réussir? Veloke Hashemayim Yishlach Malacho Lefanecha Valakachta Isha Livni Leitzrak. Dieu, qui est mon Dieu, que j'ai toujours été son serviteur, Yishlach Malacho Lefanecha. Il enverra un ange devant toi, et tu vas réussir. Il faut l'intervention d'un ange. Sinon, impossible. Avec Lavan, on ne peut pas discuter. Mais je te promets qu'un ange, il va t'aider. Très bien. Eliezer, il part. Un ange, il va me donner un coup de main. Le bon Dieu, il va m'aider ici. Mais il faut que moi, je sois intelligent. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse un coup de maître pour que Lavan, il sera d'accord. Comment je vais amener Lavan qu'il sera d'accord? Comment je vais l'amener? Mais il va me tourner au bourrique. Il faut que je le fascine. Il faut que je fais un coup de... Je l'impressionne qu'il comprend que c'est le projet divin. Lavan, il croyait en Dieu. Lavan, il croyait en Dieu. Betuel aussi. Ils avaient un caractère de folie. Mais ils croyaient en Dieu. À la fin de la parsha, ils ont dit, cette histoire vient de Dieu. Nous n'avons pas notre mot à dire. Lavan et Betuel, ils étaient d'accord avec les Shidduch. Une fois qu'ils étaient convaincus, mais Hashem, cette histoire vient de Dieu, nous n'avons pas notre mot à dire. La seule façon d'avoir l'accord de Lavan, c'est qu'il doit être convaincu que ça vient du ciel. Comment je vais le convaincre que ça vient du ciel? Comment je vais le convaincre? Alors Eliezer, il a dit, il faut que je marche à Verlon dans cette histoire. Il faut que je joue un jeu illogique. Avec la logique, ça ne marche pas. Il est plus fort en logique que moi. Je parle avec lui comme un bon commerçant. Il est plus fort que moi. Il va me tourner. Ça ne marche pas. Il faut que je le mette devant le fait accompli. Et dit à Kadosh Baruch Hu, je fais tout à Verlan. Moi, je ne demande pas qui c'est. Rien de tout. Et je dis, au pif, et il faut que ça marche. Et Avram a dit qu'il envoie Malach. C'est au Malach de s'arranger que ça tournera. Et après, je vais le raconter à Betuel et Lavan ce qu'il a fait. Et ça marchait. Et Lavan, il a dit, mais comment il a fait ce? Il est fou. La première fille, et il est tombé d'abord sur une chance sur 500. Comment il a fait? Mina Shamaim. Mais la chose, elle est beaucoup plus fine que ça. Nous allons voir quelque chose. Le texte, il dit, Eliezer, il a raconté, « Va avo hayom el ha'ayin. » Je suis venu aujourd'hui vers la source. Comme ça dit le texte. Ça veut dire quoi? Je suis venu aujourd'hui vers la source. Bien sûr, il est venu aujourd'hui vers la source. Je n'ai pas besoin de raconter. Tout le monde, il a vu qu'il est venu aujourd'hui à la source. Hier, il n'était pas là. Avant-hier, il n'était pas là. Il est venu aujourd'hui, évidemment. Il dit, tu sais, je suis venu aujourd'hui. Rashi rapporte la Gemara. Aujourd'hui, c'est le jour que je suis parti. Aujourd'hui, je suis parti de Hebron, de Abraham, et je viens d'arriver à Haran. Un TGV, c'est un super TGV, un supersonique. Ils avaient les chameaux, ils avaient un, je sais pas quoi, un moteur. Ils ont couru. Le Malach, il a fait Rachidik Fitzata Derech. Aujourd'hui, je suis arrivé. Pourquoi il est arrivé? Mais qu'est-ce qui brûlait dans cette histoire? Il avait 140 ans. Avram, il avait le temps, 140 ans. On peut attendre encore quelques jours pour trouver Shidduch. Il sera qu'il a 40 ans, ça va? Dans une journée, il fallait régler cette affaire. Mais en vérité, il y a un truc dedans. La Gemara raconte comment il s'appelait déjà le père de Rivka. Il s'appelait Betuel. Pourquoi il s'appelle Betuel? Parce que son père l'a amené, l'a appelé comme ça pendant la naissance. Mazal Tov. Non, mais pourquoi il s'appelle Betuel? Les noms qui sont écrits dans la Torah, ils ont une signification. Toujours, ça définit quelque chose. Les noms dans la Torah, c'est pas par hasard. Quand la Torah utilise un nom, c'est pour dire quelque chose d'important, en quoi ça joue un rôle, cette personne. Betuel, traduction normale, c'est un composant, c'est un acronyme de quoi? Bito, quelle? Sa fille, elle est divine, elle est pour Dieu, elle est consacrée pour Hachem. Il a une fille, et Tzadek, et Rivka, bien sûr. Bito, sa fille, quelle? Mais la Gemara nous dit, Betuel veut dire autre chose. C'est Betuel était le maire de la ville. Comme d'ailleurs son père. Son père, il s'appelait Komo Nachor. Le texte, il dit qu'Eliezer, il est venu El Haran Ir Nachor, la ville de Nachor. Nachor était le maire de la ville. Et Nachor, il est mort, Betuel est devenu la maire. Or, à l'époque, au Kurdistan, là-bas, au Haran, il y avait une coutume. Une coutume que la Gemara nous raconte, les Grecs aussi, ils avaient cette coutume, probablement d'autres aussi. On appelle le droit de cuissage. Bon, c'est un comportement pas très cachère. Pas très cachère. Il est le maire de la ville. Quand il y a un mariage, toutes les mariées, d'abord c'est le droit du maire. Comme il y en a certaines aussi, du Genève, des fois il vient des gens qui parlent. Il y en a d'autres aussi. Aujourd'hui ça existe aussi. Betuel était un malade mental, un pervers. Toutes les mariées à Haran, c'est lui qui était... Le Midrash raconte. Les gens de Haran étaient très fâchés avec Betuel. C'était archi fâché. Ils ont pris ce Betuel, ils ont dit, « Toi, écoute-nous. Le jour que ta fille va se marier, tu fais à elle la même chose que tu fais à toutes les filles de la ville. Si tu ne le fais pas, on te coupe la tête à toi et à ta fille, pour que tu le saches. » Alors, voilà dans quelle famille Betuel est né. De quelle famille le peuple juif descend. histoire bizarre. Alors Bethuel, il tremble, et qu'est-ce que je fais? Ma fille va devenir grande, et si je ne fais pas ce que je fais à tout le monde, on me coupe la tête. Je fais quoi, moi? Or, à l'époque, le fils devenait apte à marier à 3 ans. Il va arriver 3 ans, il faut que je... Alors, comment on va faire? Un grand problème. Eh bien, il faut que je fasse. Sinon, il me coupe la tête. Mais le jour que Rivka a 3 ans, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Abraham attrape une crise de vieillesse. Vaham, Zaken, Baba Yamim. Ils sont une faiblesse. Aïe, je vais mourir. Il me reste quelques jours à vivre. Il faut que je règle tout de suite l'affaire. D'un coup. Et il ne pouvait même pas appeler Yitzhak. Si la vieillesse serait venue doucement, il aurait appelé Yitzhak. Il a dit, il faut que tu te maries, tu ne prends pas une fille de Canaan. Mais Yitzhak n'est pas à côté. Il ne peut rien dire. Tout dépend Eliezer. Il faut que toi, tu règles. Et Eliezer, le même jour, il arrive. Le texte, il dit, quand il est arrivé... Vahanahara, Tovat Mare Mood, Betula, Vishlo Yada'a. La fille, elle était belle, elle était bien comme il faut. Personne ne l'a touchée encore. Pourquoi le texte dit Betula Ishlo Yada'a? C'est un double. C'est pour dire que le père n'avait pas encore, presque. C'était le moment de danger pour Rivka. Et Eliezer, il arrive. Et Eliezer, il raconte, vous savez, mon maître m'a envoyé pour prendre votre fille pour le mariage. Je suis venu aujourd'hui, aujourd'hui je suis arrivé. Il raconte, mon maître, il a fait une crise de vieillesse, il croit mourir. Aujourd'hui, il m'a demandé, aujourd'hui je suis arrivé, aujourd'hui je veux autre fille. Et Bethuel, il entend cette histoire. Il dit, mais c'est pas vrai cette histoire. Mais qu'est-ce qu'il arrive ici? Le bon Dieu veut protéger ma fille. Ah, il veut protéger ma fille. Ça, c'est Minashamayim. C'est Minashamayim. Toute cette histoire, il voit la première fille, il demande, et il arrange avec le bon Dieu. Il a dit, Abraham a dit qu'il va envoyer un malach, et le malach lui m'a aidé que ça réussit. Minashamayim. Vayan, Lavan ou Betuel, Lavan et Betuel, ils ont répondu, mais Hachem Yatsa Davar. Betuel, il savait, c'est Minashamayim. Lui et le bon Dieu, ils savent la vérité. Ils savent qu'est-ce que lui, il avait projeté. C'est Minashamayim, on ne peut rien dire. Hine Rivka, Kachvalech. Veti, Ishale Ben Adonech, tu peux prendre Rivka. Après, ils se sont mis à manger. Après, il a dit, ça y est, mais moi, j'ai quand même peur, ils vont me massacrer. Mais ils vont me massacrer, qu'est-ce que je fais maintenant? Avant de partir, il faut que je fasse quelque chose, mon projet abject. Mais Eliezer, il ne va pas me laisser. Alors, il a mis du poison. Tout le monde sait que... Pendant le repas, Bethuel, il a mis de... Vayusam le fanavlecha, le malach, il est venu, il a versé dans la coupe de Bethuel. Bethuel, il a bu, Bethuel, il est mort. Pourquoi il voulait empoisonner Eliezer? Pourquoi il voulait? Il a dit, je te donne la fille. Et un quart d'heure après, il veut l'empoisonner. Parce qu'il est en danger de mort des gens de la ville. Il faut que je liquide chez Eliezer, il faut que je fasse avec cette Rivka, après elle peut partir, sinon on me coupe la tête. Mais Avraham Avinu a dit, je t'envoie Malach. Rashi dit, le Malach, il a inversé. D'où Rashi sait que le Malach, il a inversé? C'est la Gemara dit, d'où la Gemara sait que le Malach, il a inversé? Parce qu'Avraham Avinu a dit, je t'envoie Malach, c'est lui qui va te faire réussir. Le Malach, il va te le réussir. Si tu es en danger de mort, Malach, il t'a arrangé. Le lendemain, Betuel était déjà mort, c'est la vanne avec la mère qui parle. Mais on veut laisser la fille une année assise, ou 10 mois, tout de suite, commencer à négocier. Ça y est, ça commence. On ne peut pas rester 10 mois ici, on ne peut pas rester une année ici. Et Ezra dit, mais non, vous avez vu que Dieu m'a fait réussir, je veux partir tout de suite. Le rite va, on retourne, M. Chetroulin, il pose la kushya. La Gemara nous dit qu'Eliezer il a transgressé les issours de Nachash. Je disais au début, l'autre Nachash où on n'a pas le droit de faire un pari avec Dieu et interpréter, si c'est ça, je fais ça, je considère ça comme Nachash. Et la Gemara critique, elle dit, Eliezer il ne s'est pas comporté de façon normale. Charles Sherlock Hogan, il a fait une demande qui n'est pas bien. Qui n'est pas correct. Ve heshivu kohogen. Mais le ciel lui a répondu correct. Et ça a réussi. Il a fait un pari tordu, il a réussi. Alors pourquoi il fait un pari tordu? Il dit la ritva, il faisait confiance au mérite qu'Avram Avinu il avait. Avram Avinu il a dit, Dieu va te le faire réussir. Il va t'envoyer un malach. Ne crains rien. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas du Nachash. Nachash, c'est quand je n'ai pas de promesse qu'Hachem va rentrer dans mon jeu. Moi-même, je me fabrique mon propre jeu. Ça, on n'a pas le droit. Mais ici, il y avait une promesse d'Abraham. Donc, il a dit, mon maître, il m'a promis que ça marche. Alors, j'ai le droit de marcher tordu. Et pas que j'ai le droit de marcher tordu, je suis obligé de marcher tordu. Ça ne marche pas logique. Il y a des choses dans le monde qui ne marchent pas logiquement. Normalement, un homme, il doit se comporter logiquement. Il doit utiliser son sechel, l'intelligence, la façon comme naturellement on réussit quand on utilise les moyens logique de réussite, il ne faut pas marcher tordu. Mais il y a certaines choses qui ne marchent pas normalement. Si on a une promesse du ciel qui ici, ça va marcher tordu, eh bien ça marchera tordu. On va poser une question. Lavan, il cherchait l'argent comme un malade. Il était prêt à tuer sa famille pour récupérer son argent. Mais d'où il vient cette folie? D'où il vient ces... Betuel, un pervers, mais d'où ça? Mais pourquoi ils étaient tordus comme ça? Pourquoi ils étaient tordus? Qu'est-ce qui les a rendus tordus? Mais qui c'est ce Betuel? Comment s'appelait son père? Il s'appelait Nahor. Comment s'appelait sa mère? Milka. Et Milka, elle est la fille de qui? De Haran. Haran, c'est le fils de qui? De Terach. Alors, comment ça marche dans cette famille? Il y a un monsieur qui s'appelle Terach. Terach, il avait 3 enfants. Abraham, Haran et Nahor. Bon, et il y en a ici 3 garçons. Haran, il a 2 filles, 1 garçon. 2 filles, Milka et Iska. Iska, c'est Sarah. Haran, il a un fils qui s'appelle Lot. Lot ben Haran. Très bien. Nahor, l'oncle, il se marie avec sa nièce Milka. Et Abraham, c'est l'autre oncle, il se marie avec la fille Sarah. Très bien. Haran, la Torah nous parle, Vayamot Haran al Penei Terach Aviv Bour Kastim. Texte dit dans Parshat Noach, Haran, il est mort devant Terach, son père, dans Ur Kasdim. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que Haran, il est mort? Bien sûr, il est mort, tous les gens, ils meurent. Haran, il est mort, pourquoi la Torah nous raconte? Alpenei Terach Aviv, devant Terach son père, il est mort. Pas seulement il est mort devant Terach son père, en plus il est mort Ur Kasdim. Et s'il sera mort à Paris ou à Monaco ou à Tokyo, ce sera le même prix. Non, la Torah nous dit où il est mort. Alors Rashi raconte, qu'est-ce qu'il se passait chez Avraham Avinu, c'est marqué à Anochi, Asher Hotseti Chami Ur Kasdim. Anochi Asher Lekech, Asher Hotseti Chami Ur Kasdim. Avraham Avinu aussi, il est sorti Ur Kasdim. Et Haran, il est mort devant Terach son père, Ur Kasdim. C'est quoi Ur Kasdim? Le feu de Kasdim. C'est quoi le feu de Kasdim? Kasdim, ça veut dire la Babylonie. Alors, Mara raconte, Rashi rapporte, Haran et Abraham, les deux frères, c'était les premiers croyants en Dieu. Les premiers. Abraham Avinu dit qu'il y a un Dieu au monde. Mon père, c'est un voyou. Il y avait d'autres croyants avant lui qu'Abraham ne connaissait pas, qu'on lui a caché Shem et Ever. Il avait des ancêtres, des prophètes, mais Terach, il a tout caché devant son enfant. Alors Abraham, il a dit, il y a un Dieu au monde. C'est faux, cette histoire-là. Tous les idolâtres, c'est des imbéciles. Et Abraham, tout le monde connaît l'histoire, il a cassé tous les idoles du magasin de son père. Terach, c'était le plus grand idolâtre du monde. Et Abraham, il a cassé. Et son petit frère Haran lui a aidé. Mon frère, il a raison. Jusque toute l'histoire, Terach, il est parti se réclamer chez Nimrod. J'ai deux enfants fanatiques, des fous furieux. Et ils rencontrent le monde entier, des révolutionnaires. Et ils ont dit, on va les jeter dans la fournaise. Terach, il a dit à son fils, Nimrod, il dit, Abraham, tu crois à ton Dieu? Oui. Eh bien, je te demande de retirer ta tête, sinon tu vas rentrer dans la fournaise. Il a dit, eh bien, rentre dans la fournaise. Mais tu vas brûler dans la fournaise. Eh bien, je vais brûler. Mais tu seras rôti. Eh bien, je serai rôti. Tu vas sortir en cendres. Eh bien, je sortirai en cendres. Mais où est ton intelligence? Moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas Dieu, il y a huit dieux. Non. Alors, comme ça, elle répondait Abraham. Et Haran était à côté. Et il dit, aïe, aïe, mon frère, il va rentrer. Comment il va sortir vivant? Il va sortir grillé. Je ne sais pas comment. Et après, je sais très bien, ils vont me demander à moi aussi, parce qu'il lui a donné un coup de main, Abraham. Alors Abraham, il est rentré, et il est sorti vivant. Le feu n'a rien pu faire du mal. Ça, c'est la première chose qui est arrivée à Abraham. Il est sorti vivant, Terach prend son fils Haran. Et alors, toi, ton fils, tu es avec qui? Tu penses comme Abraham ou pas comme Abraham? Alors lui, il a dit, si mon frère il sort vivant, je dirais je suis avec Abraham. Si mon frère il va griller, je vais dire je ne suis pas avec lui. Eh bien, une fois qu'il est sorti vivant Abraham, Haran il a dit, moi je suis avec Abraham. Chavot, il rentre dans la fournaise et il est resté dedans. Et lui il s'est fait brûler. Lui il s'est fait brûler. Pourquoi? Pourquoi Abraham Ovin il est sorti vivant, Haran non? La Gemara nous dit parce qu'Abraham, il a dit, je ne sais pas si je sors vivant ou je meurs. Mais même si je meurs, moi, je nie pas Dieu. Je n'ai pas le droit de dire qu'il n'y a pas Dieu parce qu'il y a huit dieux. On n'a pas le droit de mentir. Donc, je meurs ou je ne meurs pas, je ne change pas. Moi, je nie pas Dieu, donc je rentre. Ceux qui rentrent comme ça, c'est lui sorti vivant. Haran, il est rentré parce qu'il a dit, je vais sortir vivant. Si je meurs, je ne veux pas mourir pour Dieu. Il veut pas mourir pour Dieu. Il veut mourir. Il veut rester vivant. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. Eh bien, il est resté dedans. Mais avant de rentrer, avant qu'Aaron il est rentré, il est mort. Il avait trois petits gamins. Il avait une gamine qui s'appelait Sarah. Il y a une gamine qui s'appelle Milka. Il y a un petit garçon qui s'appelle Lot. Et Lot, il dit, papa, tu vas rentrer dans le four? Oui. Mais papa, c'est chaud, ils vont chauffer. Je vais sortir vivant. Dis-moi, papa, tu es sûr? Mais tu n'as pas vu tonton Abraham, il est. Mon frère Abraham, il est bien sorti vivant. Oui, mais et toi, tu vas sortir vivant? Oui. Et si tu vas mourir? Et si tu vas mourir, moi, je vais rester un orphelin, moi, je vais rester ici seul. Et tu vas tout mourir. Tu rentres dans le feu, papa. Ne t'inquiète pas. Dieu, il est grand. Allah Akbar, ne te casse pas la tête. Je vais sortir vivant, ne te casse pas la tête. Milka, elle est à côté, Sarah, elle est à côté. Oulala, papa, il va faire une opération délicate. Ne vous inquiétez pas, mes enfants, ça sera bon. Je suis prêt, je rentre. Et il rentre, en ferme la porte. Grillé comme un truc. Ils ouvrent le four. Et le père, il est. Et Lot, il voit ça. Et Lot, il voit ça. Petit gamin, il voit cette histoire. Il voit son père brûler. Aujourd'hui, on a lu dans l'histoire de la paracha que les deux malachim sont venus chez Lot. On s'appelle ce matin? Ils sont venus chez Lot. Non, il leur a donné à manger, très bien, il était bien, Lot, super bien. tous les gens de Sodome ont encerclé sa maison. Faites sortir ces hommes-là. Alors Lot, il sort de sa maison, ferme la porte derrière lui, il dit non, ne vous comportez pas comme ça, ces hommes sont venus chez moi et il ne faut pas les toucher. C'est mon devoir de les protéger. Vous ne touchez pas, mais si vous voulez, j'ai deux filles. Attends, deux filles là, il avait aussi 50 pépites d'or. Lot était archi riche. Lot était riche comme Lot. Lot était Rothschild puissance 50. Lot, c'était l'homme le plus riche. Quand tu veux négocier avec des fous furieux, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On donne la chose la plus chère ou la chose la moins chère? D'abord, on essaie des choses moins chères. Si ça marche pas, un peu plus. Les choses les plus chères, on donne pas. Lui, il dit, prenez mes filles et ton argent. Mon argent, comment je peux offrir mon argent? Et tes filles, tu peux offrir? Mais entre les filles et l'argent, il n'y a pas de photo, hein? Il n'y a pas de photo pour lui. Mais un fou furieux, ce Lot. Mais où est sa tête? Mais où est sa tête? Il est gentil, il veut protéger les gens. C'est très bien, c'est correct. Baruch HaShem, t'es courageux. Il sort, il ferme la porte derrière lui. Il va défendre ces deux hommes-là. Le type, il était courageux, le type était tzaddik. Mais tordu. Tordu jusqu'au... Mais d'où ça vient, cette histoire? Et l'autre, le petit-fils Betuel, pervers de mes pervers. Et la vanne court derrière l'argent comme un malade. Mais ça... Ça, c'est la conséquence de quelqu'un qui n'a pas compris qu'est-ce qu'Hachem y fait dans le monde. Ça, c'est le comportement qui peut se déclencher chez quelqu'un qui ne comprend pas les chemins d'Hachem. Ils étaient des enfants, ils ont vu comment leur père, leur grand-père, il se fait brûler dans le four. Et Haran, il a dit, ne vous inquiétez pas, Dieu va m'aider. Et Dieu ne lui a pas aidé. Et ça peut créer un traumatisme. Ça peut créer un tel traumatisme. Ce Lot, il a dit, moi, bon, Olam Haba, son Dieu, le Dieu de papa avec son Olam Haba, bon, c'est pas ça qui est important. Moi, je cherche l'argent dans ce monde. Moi, il me faut l'argent dans ce monde. Moi j'en fais maintenant Olam Haba, j'en ai rien à faire avec l'Olam Haba maintenant. Ça, c'est un comportement qui est arrivé pas qu'à Lot, et pas seulement à Betuel. C'est arrivé à beaucoup de Juifs, malheureusement. Beaucoup de Juifs, ces Juifs qui comprennent mal ce qu'Hachem y fait dans le monde, qui comprennent pas comment Hachem y conduit le monde. Avraham, je l'ai sauvé. Lot, je ne l'ai pas sauvé. Ah, des calculs, Hachem, il a des calculs. Et Lot, il n'aurait pas dû dire, Hachem, il va me sauver. Il a fait une faute. Non, pas Lot, Haran. Haran, il aurait dû rassurer quand ses enfants, quand le fils, il a demandé, papa, tu vas rentrer dans le fournaise? Oui. Et peut-être tu vas brûler. Même si je brûle, je le fais. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas nier Dieu. Tu es d'accord, mais... Oui. Comme ça, il dit Abraham. Mais Haran, il a dit, il n'y a rien à craindre, Dieu va me protéger. Qui t'a permis de parler? Dieu va te protéger. Qui t'a permis? Mais qui t'a permis de parler? Dieu t'a promis? Non. Alors, qui te dit que Dieu va te protéger? Moi, je le dis. Toi, tu le dis. Celui qui se fait passer pour le porte-parole de Dieu, moi, je sais ce que Dieu, il veut. Mais il ne sait pas. Après, quand ça tourne par an, les enfants, ils voient, ils sont dégoûtés. Là, ils sont dégoûtés. Mais c'était que l'autre qui était dégoûté. Les Milka et Iska n'étaient pas dégoûtés. Les femmes de cette famille étaient tous des tzatkaniot. Toutes les femmes, que ce sera Milka, Sarah, que ce sera après Rivka, et les filles de Lavan, c'est Rachel et Léa, tous des tzatkaniot. Les garçons de cette famille, ils ont atteint ce virus. Et les filles n'étaient pas atteintes par ce virus. C'est une famille, c'est coupé en deux. Les hommes, ils ont pris cette rébellion contre Hachem. Betuel a dit, moi, c'est ce monde-là qui m'intéresse. Lavan, c'est ce monde qui m'intéresse. Parce que eux, ils ont pas compris. Ils ont raisonné comme Lot. Lot, il a promis. Et Dieu ne lui a pas écouté. Ça, ce sont des sentiments. Ce sont une émotion dégoûtée de la religion, dégoûtée de Dieu. Et en bon français, on dit, il pète un câble. Et ça y est, moi, je cherche que les choses de ce monde. Et là, elle se trouve, cette Rivka. Rivka, elle savait vivre. Rivka, quand Eliezer, il a demandé, vous êtes la fille de qui? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Je suis Bat Betuel Anochi, Asher Yalda, Milka Lenachor. Moi, je suis la fille de Betuel, qui est le fils de Milka. Pourquoi elle parle de Milka? Elle parle de sa grand-mère. Pourquoi elle parle de sa grand-mère? Normalement, on dit le père, je te demandais, le père, tu veux dire le grand-père aussi, Nahor. Milka. Parce que Rivka, elle avait le flair. Elle avait sa neshama, elle était pure. Milka, c'était le tzadek, et Milka, c'était la sœur de Sarah. C'est la même kam que Sarah. C'est la même kedusha. Je suis la... Oui, je suis la fille de Betuel. Mais Betuel, bon, c'est un morceau ce Betuel. Mon père, je ne suis pas trop fier de lui. Mais chez Betuel, c'est le fils de Milka. Ça doit vous faire tilt. Elle a compris, c'est Eliezer, c'est pas... Elle a compris qu'il y a quelque chose derrière. Elle a vu sur lui... La Gemara nous dit, Zekan Beto, il avait le même visage qu'Abraham. Même visage qu'Abraham. Donc si c'est le même visage qu'Abraham, c'est sa famille. Donc elle a vu sa grand-mère, c'est bien sûr, c'est la même famille, c'est le même truc. Je suis la petite fille de Milka. Alors, ça c'est pour comprendre pourquoi Lavan et Betuel et Lot, ils étaient si tordus. Mais la question, elle est, pourquoi le bon Dieu, il a créé le peuple juif comme descendant de ces gens-là? On est fiers, mais on descend de Lavan. On descend de Betuel. Lavan n'était pas que le frère de Rivka, il était aussi le père de Rachel et Léa. C'est pas seulement notre oncle, c'est notre oncle et notre grand-père. On a tous des gènes de Lavan qui coulent ici. Si tu entends Bar Minan des Juifs qui se comportent un peu à la Lavan et un peu à la Betuel, Bar Minan, ça peut exister. On a ces gènes dans notre sang. Et pourquoi le bon Dieu, il a fait comme ça? Pourquoi il a fait comme ça? Maaseh la nuit de Pessah nous disant comme ça. Mitrila ovdei avodah zara hayu avotenu va'achshav kervan ha'makom la'avodato she'ne'emar terach avi Avraham ha'ori Nachor va'yavdu lihim achirim va'ekach et avichem et Avraham va'olechet. Ça veut dire quoi? Mitrila, le peuple juif commençait comment? Ovdei avodah zara hayu avotenu. Les juifs au début, ils étaient des idolâtres. À Terach, mais pas un simple idolâtre, le chef de tous les idolâtres. Les juifs, ils ont quelque chose, ils veulent être les chefs. Et quand on est tordu, on est les chefs des tordus. Les chefs des tordus, on va être les chefs. On est les chefs des tordus. Terach était le plus grand tordu. Vayamot Terach Becharan. Terach il est mort à Haran. Rashi dit Haran, Haron. Kol zman sheterach ba'olam, charonav ba'olam. Tant que Terach était au monde, il y avait la colère au monde. Terach était le plus grand. Hachem, il a fait comme ça pour nous montrer. On a commencé tordu. Pourquoi les Juifs, ils doivent savoir qu'on a commencé tordu? Parce qu'après, au Har Sinai, on va recevoir la Torah. Et quand on reçoit la Torah, on est rapproché par Hachem. Kervanu hamakom la'avodato, Akadosh Baruch Hu nous a rapproché à son service. On a cet avantage, on a ce privilège, on a reçu ce cadeau d'Hachem. Dieu, il est descendu du ciel au Har Sinaï pour nous donner cette Torah, cette belle Torah. Ça peut monter à l'esprit du juif un peu d'orgueil. On est le peuple élu, on est les meilleurs. Et quand quelqu'un pense qu'il est le meilleur, c'est pas bon. L'orgueil casse tout. La fierté n'est pas bon. Alors, Mitrila Ovdevadezara, il faut être modeste. Ton grand-père était, il méritait le prison, ton grand-père. La vanne, il méritait la prison. Terach méritait la prison. On est des reprises de justice, les enfants de reprises de justice. Et si on n'écoute pas bien la Torah, ce jeune, il risque de se réveiller. Il faut faire attention. Il risque de se réveiller. Si on habite à Paris ou à Hollywood, ça ne change pas. Ça risque de se réveiller. Partout où on se trouve, ou les CO2 et tout, ben, il y a beaucoup de moyens que le virus de la vanne peut se réveiller. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Il nous a rapprochés. Il a rapproché Abraham Avinu. Il a rapproché le peuple juif. Mais ça, il faut lui remercier. Mais le Massé a encore une autre chose ici. Hachem nous a donné la Torah à Har Sinaï. Qu'est-ce qui fait un bon juif quand il reçoit un tellement beau cadeau que la Torah? Eh bien, on va l'étudier. On va l'appliquer. Comment? Avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton argent. Alors demain, on va acheter un loulav. Et le vendeur, c'est un lavan. Vous voulez un loulav? Oui. Vous avez combien d'argent? Je sais pas, 50 euros, 70 euros. Non, à la banque, vous avez combien d'argent? À la banque? Pourquoi à la banque? Mais dites-moi combien d'argent vous avez à la banque. Et en blanc ou en noir? Bon. Et combien vous avez? En tout. Bon, 300 000 euros. Bon, le loulav, il coûte 300 000 euros. Comment? Le loulav, il coûte 300 000 euros. Et si je ne vous donne pas... Eh bien, il n'y a pas de loulav. Eh bien, vous n'aurez pas de loulav. Comment j'aurai pas de loulav? Vous êtes le seul vendeur ici. Non, vous n'aurez pas de loulav. 300 000 euros. Non, alors je fais quoi, moi? La Torah nous dit, prends le loulav. Je fais comment? Monsieur le rabbin, je fais quoi? Il veut tout mon argent pour un loulav. Écoutez, la mitzvah, la Torah, ça vaut plus que tout l'argent du monde. Oui, oui. La Torah, ça vaut plus. Ça va, prenez les 300 000 euros, donnez-moi votre loulav. Je vais faire la mitzvah. Après, il faut que je mange quelque chose. Qu'est-ce qu'on va manger à la maison? La femme dit, qu'est-ce qu'on va manger? Je ne sais pas, je n'ai pas d'argent. Et tu as de l'argent à la banque, j'ai tout donné. Pourquoi? Pour le loulav. Mais t'es fou, t'as donné tout ton argent. Mais c'est marqué dans la Torah, le rabbin m'a dit. Il faut bien un petit grand-père Lavane pour aimer un peu l'argent. Imaginons-nous que le peuple juif n'avait pas de grand-père comme Lavane. On aurait donné tout l'argent pour des mitzvot. On serait tous pauvres. On n'a pas le droit de donner, il faut aimer l'argent. Parce que la Torah, elle est tellement grande, on est capable de tout donner pour la Torah. Et après, rester pauvre. Et c'est la Torah ne veut pas. Donc, il fallait nous mettre des gènes que l'argent aussi, c'est important. Ah, des gens, qu'est-ce que je vais me marier avec une femme, avoir des enfants? Je vais étudier, je vais faire des mitzvot, rien fait de ce monde. Mais il faut bien avoir des enfants. On ne peut pas. Le peuple juif est tant donné. Il nous a donné la Torah, Hachem. Et il faut aimer la Torah avec tout le cœur et toute l'âme. Alors on peut exagérer. On peut exagérer que tout ce monde-là n'a plus aucune valeur. Un homme, il peut raisonner comme ça, ça n'a plus aucune valeur. Voilà, Avraham Avinu est rentré dans la fournaise. Pour un vie et pour un or, non, on peut donner sa vie. Si un juif, il dit, il me faut un loulav. Et j'ai personne. 50 mètres, il faut le loulav. Je vais monter. Et Dieu va m'aider. Tu es sûr que Dieu va t'aider? Mais Dieu, il a dit, il faut faire un loulav. Donc, ça veut dire que je peux monter. Et si tu vas tomber à 30 mètres, ça va te faire tourner, tu vas tomber. Non, je vais tourner. Mais non, Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. Tu es sûr que Dieu va t'aider? Mais c'est marqué, il faut faire la mitzvah, il faut faire, et bien on monte, et on tombe. Je connaissais un Tamid Chacham, le pauvre, il a fait sa soukha il y a longtemps déjà. Il est monté sur une échelle faire la soukha et n'a pas fait attention. C'était à 3 mètres et il est tombé, il est mal tombé. Il faut, une mitzvah, il faut faire attention. Avant de donner la Torah aux Juifs, Akesh Bokh nous a donné un bon terrar, un bon betuel, un bon lavan, pour préparer déjà, pour qu'on sait faire attention à l'argent aussi. Faire attention. Il faut aimer l'argent aussi. Mais à condition que quoi? Que qu'on ne vienne pas de lavan ni de betuel. Le résumé de cette histoire, faire sortir Rivka des griffes de ce lavande de ce bétuel, il faut une grande chokhma. Avraham Zaken, il était chacham, il prévoyait les choses. Baba Yamim, un tremblement a attrapé son corps. Je vais mourir, il faut que j'agis vite. Je n'ai pas le temps d'appeler Yitzhak. Il faut que ça... Vavo Hayom, pour que ça arrive pile le jour que Rivka a 3 ans. Et ça, ça travaille sur bétuel. Et Betuel et Lavan, tordus qu'ils sont, si ça vient de Dieu, on est obligé de se soumettre. Et quand Lavan, il a couru derrière Yaakov, la veille de rencontre, c'est marqué, Vayavo Elohim et Lavan, Bechalom Alayla. Hachem, il a apparu à Lavan, Bechalom Alayla, et dit, Lotedaber im Yaakov, mitov avdra. Tu ne parles pas un mot avec Yaakov. Et Lavan, le matin, quand il discutait avec Yaakov, il dit, vous savez, j'aurais voulu vous tous vous massacrer, mais Emesh, Avichem Amaralai, votre père m'a dit, tu ne parles pas avec Yaakov, mitovadra, donc je respecte. Il respecte. Quand il voit que c'est Minashamayim, même Lavan, il respecte. C'est la seule moyen, c'était le seul moyen pour faire sortir Rivka. Et c'est pour ça, Eliezer, il se comportait de cette façon. Shavua Tov.